Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomé. Chapitre 78. Le même jour, et presque à la même heure, M. Willett Senior fumait sa pipe sur sa chaise dans une chambre du Lion Noir. Quoiqu'on fût en pleine chaleur d'été, M. Willett était assis tout contre le feu. Il était plongé dans une profonde méditation, tout entier à ses propres pensées, auquel cas il ne manquait jamais de se mijoter à l'étuvée, persuadé que ce procédé de cuisson était favorable pour mettre en fusion ses idées, qui, lorsqu'il commençait à mitonner, se mettaient quelquefois à couler assez copieusement pour l'étonner lui-même. Mille et mille fois déjà, les amis et connaissances de M. Willett, pour le consoler, lui avaient donné l'assurance que pour se récupérer des pertes et dommages qu'il avait souffert dans le pillage de l'arbre de mai, il pouvait avoir un recours sur le comté. Mais comme cette manière de parler avait le malheur de ressembler à cette expression populaire « avoir recours à la paroisse », car chaque paroisse doit entretenir ses pauvres, M. Willett ne voyait dans ses consolations prétendues qu'un paupérisme déguisé, sur une plus grande échelle peut-être, mais qui n'en était pas moins le signe de sa ruine à un point de vue plus étendu. En conséquence, il n'avait jamais manqué de recevoir ses communications par un mouvement de tête douloureux ou par de grands yeux hébétés, de sorte qu'on le voyait toujours plus mélancolique après une visite de condoléances qu'à tout autre moment des 24 heures de chaque journée. Cependant, le hasard voulut que, se trouvant assis devant le feu dans cette occasion particulière, soit qu'il fût déjà, pour ainsi dire, rissolé à point, soit qu'il fût dans un état d'esprit plus gaillard que d'habitude, soit par un heureux concours de ces deux circonstances combinées, le hasard voulut que, se trouvant assis dans cette occasion particulière, M. Willett aperçut de loin, dans les profondeurs les plus reculées de son intellect, une espèce d'idée cachée, ou de faible probabilité qu'il y avait peut-être attiré sur la bourse publique des fonds applicables à la restauration de l'arbre de mai pour lui faire reprendre son ancienne splendeur parmi les tavernes de ce monde. Et ce rayon mystérieux de lumière, encore incertain, se fit tout doucement si bien jour au-dedans de lui qu'il finit par y prendre feu et par l'illuminer d'une pensée claire et visible à ses yeux comme le brasier devant lequel il était assis. Enfin, bien convaincu qu'il avait les premiers honneurs de cette découverte, que c'était lui qui avait levé, chassé, visé et abattu d'un bon coup à la tête une idée parfaitement originale qui ne s'était jamais jusqu'à présent présentée à aucun homme, mort ou vivant, il posa sa pipe pour se frotter les yeux et rit à gorge déployée. « Eh mais, père, lui cria Joe qui entrait en ce moment, vous êtes bien gai aujourd'hui. » « Oh, rien de particulier, » dit M. Willett, continuant de rire de bon cœur. « Rien du tout de particulier, Joseph. Voyons, contez-moi quelque chose de cette savaigne. » Et après avoir exprimé ce désir, M. Willett eut un troisième accès de rire et interrompit ses démonstrations d'humeur légère, qui ne lui étaient pas ordinaires, en remettant sa pipe entre ses dents. « Que voulez-vous que je vous dise, père ?» répondit Joe en posant la main sur l'épaule paternelle et en regardant son visage en face. « Que me voilà revenu plus pauvre qu'un rat d'église ? Ce n'est pas nouveau pour vous. Ou bien que me voilà revenu mutilé et estropié ? C'est encore quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. On l'a coupé, » marmotta M. Willett, toujours ses yeux fixés sur le feu, « à la défense de la Savaigne. » En Amérique, dans le pays où on fait la guerre. C'est bien cela, répliqua Joe, souriant et s'appuyant avec le coude qui lui restait sur le dos du fauteuil de son père. C'est justement le sujet dont je venais causer avec vous. Un homme qui n'a plus qu'un bras, père, ne peut pas servir à grand-chose dans l'activité générale de ce monde. C'était là une de ces propositions vastes auxquelles M. Willett n'avait jamais réfléchi et qui méritait mûre considération. Aussi ne répondit-il pas. « Dans tous les cas, reprit Joe, il n'est pas libre de prendre et de choisir ses moyens d'existence comme un autre. Il ne peut pas dire « je vais mettre la main à ceci » ou « je ne veux pas mettre la main à cela ». Il faut qu'il prenne ce qu'il trouve, et encore qu'il se trouve heureux de n'être pas réduit à pis. Plaît-il ? Monsieur Willett venait en effet de se répéter tout bas à lui-même d'un air rêveur les mots « défense de la Savaigne ». Mais il parut embarrassé d'avoir été entendu et répondit « Rien !»« Maintenant, écoutez bien, père. Monsieur Edward est revenu en Angleterre des Indes occidentales. À l'époque où on l'a perdu de vue, vous savez, père, le même jour où je me sauvais de mon côté, il a fait un voyage dans une île de ce pays-là où s'était établi un de ses camarades de collège. Quand il l'eut retrouvé là, il ne se crut pas déshonoré de prendre un emploi dans son domaine et bref, il a bien fait ses affaires, il y prospère, il a fait ici un voyage pour son compte et il va y retourner au plus tôt. C'est un bonheur de toute manière que nous soyons revenus à peu près en même temps et que nous nous soyons rencontrés dans les derniers troubles, car non seulement ce fut pour nous l'occasion de rendre service à d'anciens amis, mais cette circonstance m'a procuré l'avantage de pouvoir me tirer d'affaire sans être à charge à personne. En un mot, père, il peut me donner de l'occupation. De mon côté, je me suis assuré que je peux lui être de quelque utilité et je m'en vais emporter mon unique bras à son service pour en tirer le meilleur parti possible. Aux yeux intellectuels de M. Willett, les Indes occidentales, ou plutôt toute contrée étrangère, n'étaient habitées que par des nations sauvages qui ne faisaient toute la journée qu'enterrer le calumet de paix, brandir des tomahawks et se tatouer sur le corps des dessins plus étranges les uns que les autres. Il n'eut donc pas plus tôt entendu cette déclaration qu'il se renversa sur son fauteuil, tira sa pipe de ses lèvres et fixa sur son fils des yeux aussi effarés que s'il le voyait déjà attaché à un pieu et livré aux plus cruelles tortures pour l'amusement d'une population folâtre. Quelle forme allait-il donner à l'expression de ce sentiment, c'est ce qu'on n'a jamais pu savoir, mais peu importe d'ailleurs. Car avant qu'il eût pu trouver une syllabe, Dolly Varden accourut dans la chambre, tout en larmes, se jeta sur le sein de Joe sans un mot d'explication et lui passa ses bras blancs autour du cou. « Dolly !» cria Joe. « Dolly !» « Oui, appelez-moi comme ça, toujours comme ça !» s'écria la petite demoiselle du serrurier. « Et ne me parlez plus avec froideur, ne me tenez pas à distance comme vous faisiez. Ne m'en veuillez plus jamais de mes folies dont je me suis depuis longtemps repenti, ou vous me ferez mourir de chagrin, Joe. »« Moi, vous en vouloir, » dit Joe. « Oui, car chaque mot de bonté et de sincère franchise que vous prononciez m'allait au cœur, car vous qui avez tant souffert avec moi, car vous qui ne devez qu'à mes caprices toutes vos peines et vos chagrins, quand je vous vois si bon, si noble pour moi, Joe. » Il ne put rien lui dire, pas une syllabe. Il y avait bien une sorte d'éloquence assez drôle dans son bras gauche qui lui avait serré la taille, mais quant à ses lèvres, elles étaient muettes. « Encore, si vous m'aviez rappelé par un mot, seulement un petit mot, » continua Dolly, sanglotant et s'attachant encore à lui de plus près, « que je ne méritais pas la patience que vous m'aviez montrée, si vous vous étiez un seul moment prévalu de votre triomphe, j'en aurais eu moins de chagrin. » « Mon triomphe !» répéta Joe avec un sourire qui semblait dire « Avec cela que je suis un beau garçon pour triompher. »« Oui, votre triomphe » criait-elle, toujours de tout son cœur et de toute son âme, qui éclatait dans sa voix et dans les larmes dont étaient inondées ses joues, « car c'en est un. Je suis heureuse de penser et de reconnaître que c'en est un. Je ne voudrais pas, pour tout un monde, me sentir moins humiliée. Oh non, je ne voudrais pas avoir perdu le souvenir de ce dernier soir où nous nous sommes entretenus ici même. » Non, non, quand même, je pourrais effacer le passé de ma mémoire et qu'il dépendrait de moi que ce fût hier seulement que notre séparation eût eu lieu. Jamais vous n'avez vu regard d'amoureux comme celui de Joe en ce moment. « Cher Joe, » dit Dolly, « je vous ai toujours aimé. Oui, dans le fond du cœur, je vous aimais toujours, malgré ma vanité et mes étourderies. J'avais espéré que vous reviendriez ce soir-là. Je m'étais figuré que vous n'y manqueriez pas. J'en ai fait au ciel la prière à deux genoux. Et dans tout le cours de ces longues années que vous avez passées loin de moi, jamais je n'ai cessé de penser à vous et d'espérer qu'enfin nous aurions un jour le bonheur d'être réunis. » L'éloquence du bras de Joe surpassa toute celle du langage le plus passionné et celle de ses lèvres donc. Et cependant, avec tout cela, il ne disait pas un mot. « Et maintenant enfin, » cria Dolly, toute palpitante de l'ardeur qu'elle mettait dans ses paroles, « quand vous seriez malade, estropié de tous vos membres, valétudinaire, infirme, morose, quand même, au lieu d'être ce que vous êtes, vous ne seriez aux yeux de tout le monde, non pas au mien, qu'un débris, qu'une ruine, plutôt qu'un homme, je n'en serais pas moins votre femme, votre bonne amie, avec plus d'orgueil et de joie que si vous étiez le lord le plus magnifique de toute l'Angleterre. » « Qu'ai-je fait ? » cria Joe à son tour. « Qu'ai-je donc fait pour obtenir une telle récompense ?»« Vous m'avez appris, » dit Dolly, levant vers lui sa jolie figure, « à me connaître et à vous apprécier, à valoir un peu mieux que je ne valais, à mieux me rendre digne de votre brave et virile nature. Plus tard, cher Joe, vous verrez avec le temps que vous m'avez appris tout cela. Car je veux être, non seulement à présent que nous sommes jeunes et pleins d'espérance, mais encore quand nous serons devenus vieux et cassés, je veux être votre douce, votre patiente, votre infatigable petite femme. Je ne veux plus avoir de pensée ni de soins que pour notre ménage et pour vous. Je veux m'étudier sans cesse à vous plaire par le témoignage constant de ma plus vive affection et de mon amour le plus dévoué. Je le veux, oh oui, je le veux. » Joe ne put que répéter ses premiers mouvements d'éloquence, mais c'était bien tout ce qu'il pouvait faire de mieux approprié à la circonstance. « Ils le savent à la maison, » dit Dolly. « Pour vous suivre, je les quitterai s'il le fallait. Mais je n'en ai pas besoin. Ils savent tout. Et ils en sont charmés. Ils sont aussi fiers de vous que moi-même, et aussi pleins de reconnaissance. Ne viendrez-vous pas me voir comme un pauvre cher ami qui m'a connu quand j'étais petite fille? N'est-ce pas que vous viendrez, cher Joe ?»« c'est bon, ne vous inquiétez pas de ce que Joe dit en réponse. Il en dit bien long à coup sûr. » Et Dolly ne fut pas en reste. Et il pressa Dolly dans son bras qu'il a serré joliment pour un seul bras. Et Dolly ne fit pas de résistance. Et s'il y a jamais eu un couple heureux dans ce monde, qui avec tous ses défauts n'est pas encore si misérable au bout du compte, vous pouvez dire, sans risque de vous tromper, que c'était celui-là. Dire que durant cette évolution, M. Willett Senior éprouvait les plus grandes émotions de surprise dont la nature humaine soit susceptible, dire qu'il était dans une espèce de paralysie d'étonnement et qu'il était enlevé dans les régions les plus ardues, les plus étourdissantes, les plus inaccessibles d'une stupéfaction compliquée, ce serait faire en termes bien imparfaits une esquisse trop incomplète de l'état d'esprit où il se trouvait égaré. Si un roc, un aigle, un griffon, un éléphant volant, un cheval marin avec ses grandes ailes lui eût apparu subitement, qu'il l'eût pris sur son dos et l'eût emporté corporellement au cœur même de la Savaigne, ce n'aurait été pour lui qu'un événement vulgaire et journalier en comparaison de ce qu'il voyait de ses yeux. Quoi, être là sur sa chaise, tout tranquillement, à regarder et à entendre tout ça, se voir complètement négligé, oublié, laissé de côté, pendant que son fils et une demoiselle causaient ensemble d'une manière si passionnée, s'embrassaient l'un l'autre et ne se gênaient pas plus que s'ils étaient chez eux, c'était vraiment une position si monstrueuse, si inexplicable, qui passait si bien ses plus vastes facultés de compréhension, qu'il en tomba dans une léthargie d'ébahissement dont il ne pouvait pas plus se réveiller qu'un dormeur enchanté dans la première année de son bail emphytéotique avec les fées. « Père, » dit Joe en lui présentant Dolly, « vous voyez de quoi il s'agit. » M. Willett regarda d'abord la jeune fille, puis son fils, puis encore Dolly, et alors il fit un effort inutile pour tirer une bouffée de sa pipe qui était éteinte depuis longtemps. « Dites seulement un mot, quand ce ne serait que « comment vous portez-vous » insista Joe. « Certainement, Joseph, » répondit M. Willett. « Oui, sans doute, pourquoi pas ?»
« Vous avez raison, » dit Joe. « Pourquoi pas ?»«
Oh !» répliqua le père. « Pourquoi pas ?» Et en faisant cette réflexion à voix basse, comme s'il discutait en lui-même quelques graves questions, il se servit de son petit doigt, si toutefois il en avait un sur les 10 qui mérita cette qualification, il se servit du petit doigt de sa main droite comme d'un bourre-pipe et retomba dans son silence. Et il resta là assis au moins une demi-heure, quoique Dolly, du ton le plus caressant, lui exprima plus d'une douzaine de fois l'espérance qu'il n'était pas fâché contre elle. Il resta là assis une demi-heure, comme pétrifié, sans remuer, ni plus ni moins qu'une grosse quille. À l'expiration de cette période, tout à coup, et sans la moindre préparation, il poussa
au grand saisissement des deux jeunes gens, un éclat de rire bruyant et court en répétant
« Certainement, Joseph, oui, sans doute, pourquoi pas ?»
Et il sortit pour faire un petit tour.
Chapitre 79. Ce n'est pas du côté de la Clé d'Or que le vieux John alla faire son petit tour de promenade, car entre la Clé d'Or et le Lion Noir, il y a tout un voyage de rue à la file, comme le savent bien ceux qui connaissent les distances respectives de Clerkenwell et de Whitechapel, et M. Willett était connu pour n'être pas un fameux piéton. Mais la Clé d'Or se trouve sur notre chemin, si elle n'était pas sur le sien. Ce chapitre va donc nous suivre, s'il vous plaît, à la Clé d'Or. La Clé d'Or en personne, cet emblème naturel de l'état de serrurier, avait été jeté à bas par les émeutiers et foulé injurieusement sous leurs pieds. Mais en ce moment, on l'avait remonté à sa place dans toute la gloire d'une nouvelle couche de peinture et jamais elle n'avait eu si bonne mine. Elle n'était pas la seule. Toute la façade de la maison était élégante et coquette. On l'avait si bien rafraîchie du haut en bas que s'il restait encore quelques-uns des perturbateurs qui étaient venus l'attaquer, la vue de ce bon vieux logis rajeuni et prospère devait être pour eux un ver rongeur, un vrai crève-cœur. Cependant, les volets de la boutique étaient clos. Les jalousies du premier étage étaient toutes abaissées et au lieu de la gaieté qui régnait d'ordinaire dans la maison, on lui voyait un extérieur triste et comme un air de deuil que les voisins, accoutumés à voir autrefois entrer et sortir le pauvre Barnabé, n'avaient pas de peine à comprendre. La porte était entrebâillée, mais on n'entendait pas le marteau sur l'enclume, le chat était ronflant, accroupi sur les cendres de la forge, tout était désert, sombre et silencieux. Monsieur Herdel et Edward Chester se rencontrèrent sur le seuil de la porte. Le jeune homme céda le pas à l'autre et, après être entrés tous les deux d'un air de familiarité qui semblait indiquer qu'ils attendaient là quelque chose et qu'on était accoutumé à les laisser entrer et sortir sans les questionner, ils fermèrent la porte derrière eux. Ils entrèrent dans l'ancien parloir, montèrent l'escalier à pic façonné à l'ancienne mode et tournèrent à droite dans la belle salle, l'orgueil et la gloire de Madame Varden, autrefois le théâtre des labeurs domestiques de Mix. « D'après ce que m'a appris Varden, dit M. Herdel, il a amené la mère ici hier soir. « Oui, répondit Edward, elle est à présent au second dans la chambre dessus. » On dit que sa douleur passe toute croyance. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous le savez d'avance, que le soin, l'humanité et la sympathie de ces braves gens sont sans limite. Je m'en doute que le ciel les récompense de cet acte de bonté et de bien d'autres. Varden n'est pas ici. Il est retourné avec votre messager, qu'il a trouvé au moment où il revenait chez lui. Il a été dehors toute la nuit, mais cela vous le savez bien, puisqu'il en a passé la plus grande partie avec vous. « C'est vrai, si je ne l'avais pas eu, c'est comme s'il m'eût manqué mon bras droit. Il a beau être plus âgé que moi, rien ne l'arrête. C'est bien le cœur le plus ferme, et en ce moment, l'homme le plus gai de la terre. Il en a bien le droit. Il n'y a jamais eu de meilleure créature au monde. Il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Ce n'est que trop juste. » « Tout le monde, dit Edward après un moment d'hésitation, n'a pas le bonheur de pouvoir en dire autant. Il n'y en a plus que vous ne croyez. » reprit M. Herdel. Seulement, nous, nous faisons plus d'attention au temps de la moisson qu'à celui des semailles. Voilà pourquoi aussi vous vous trompez en ce qui me concerne. » Le fait est que son visage pâle, ses yeux hagards et son extérieur sombre avaient eu tant d'influence sur la réflexion qu'Edouard avait faite que celui-ci, pour le moment, ne sut que répondre. « Bah, bah, dit M. Herdel, votre allusion n'était pas difficile à deviner, mais c'est égal, vous vous êtes trompé. J'ai eu ma part de chagrin plus que ma part, peut-être. Mais je n'ai pas su la supporter comme il fallait. J'ai rompu quand j'aurais dû plier. J'ai perdu dans la rêverie et la solitude le temps que j'aurais dû employer à mêler mon existence à celle de toutes les créatures du bon Dieu. Les hommes qui apprennent la patience sont ceux qui donnent à tous leurs semblables le nom de frère, mais moi, j'ai tourné le dos au monde et j'en subis la peine. » Edouard allait protester, mais M. Herdel ne lui en laissa pas le temps. « Il est trop tard, continua-t-il, pour en éviter maintenant les conséquences. Je me dis quelquefois que si j'avais à recommencer ma vie,
Je pourrais réparer cette faute, non pas tant précisément, il me semble, en y réfléchissant, par amour pour ce qui est bien, que dans mon propre intérêt. Je recule par instinct devant l'idée de souffrir une seconde fois tout ce que j'ai souffert, et c'est dans cette circonstance que je puise la triste assurance que je serai encore le même quand je pourrai effacer le passé et recommencer à nouveau en prenant pour guide l'expérience que j'ai déjà faite. « Non, non, vous ne vous rendez pas justice, » dit Édouard. « Vous croyez cela ?» répondit M. Hadel. « Et j'en suis bien aise. Mais je me connais mieux que personne. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas en moi tant de confiance. Passons à un autre sujet de conversation, qui d'ailleurs n'est pas aussi éloigné du premier qu'on pourrait le croire au premier abord. Monsieur, vous aimez toujours ma nièce, mais elle vous est toujours attachée. J'en tiens l'assurance de sa bouche même, » dit Édouard. Et vous savez, je suis sûr que vous n'en doutez pas, que je n'échangerai pas cet aveu contre toute autre bénédiction que le ciel voudrait m'octroyer.
« Vous êtes un jeune homme franc, honorable et désintéressé, » dit M. Hadel.
« Vous en avez porté la conviction jusque dans mon esprit malade, et je vous crois. Attendez ici mon retour. » En même temps, il quitta la chambre et revint l'instant d'après avec Mlle Hadel. « La première et seule fois, » dit-il en les regardant tour à tour, « que nous nous sommes trouvés ensemble tous les trois sous le toit du père de ma nièce, je vous ai enjoint, Édouard, de la quitter, et je vous ai défendu d'y revenir jamais. C'est le seul détail de l'histoire de notre amour que j'ai oublié, » reprit Édouard. « Vous portez un nom, » dit M. Hadel, « que je n'ai que trop de raisons de me rappeler. J'étais poussé, excité par des souvenirs de tort et d'injures qui m'étaient personnels. Je le sais, je le confesse. Mais, même en ce moment, je me calomnierais si je vous disais qu'alors ou jamais, j'ai cessé de faire au fond du cœur les vœux les plus ardents pour son bonheur, ou que j'ai agi en cela, je reconnais du reste mon erreur, par une autre impulsion que le désir pur, unique, sincère, de remplacer près d'elle, autant que je le pouvais du moins, le père qu'elle avait perdu. « Cher oncle, » dit Emma en pleurant, « je n'ai jamais connu d'autre père que vous. Ma mère et mon père ne m'ont laissé à chérir que leur mémoire, mais vous, j'ai pu vous aimer toute ma vie. Jamais père n'a été plus tendre pour son enfant que vous ne l'avez été pour moi depuis le premier moment que je puis me rappeler jusqu'au dernier. « Vous me parlez avec trop de tendresse, » répondit-il, « et pourtant je n'ai pas le courage de souhaiter que vous me jugiez moins favorablement. J'ai trop de plaisir à entendre ces mots de votre bouche, comme j'en aurai toujours à me les rappeler quand nous serons séparés. Ce sera le bonheur de ma vie. Encore un peu de patience, je vous prie, Édouard. Elle et moi, nous avons passé bien des années ensemble, et quoique je sache bien qu'en la remettant entre vos mains, je mets le sceau à son bonheur futur, je sens qu'il me faut un effort pour m'y résigner. » Il la pressa tendrement contre son sein, et après une minute de silence, il reprit. « J'ai eu tort avec vous, monsieur, et je vous en demande pardon. Ce n'est pas ici une formule banale, ni un regret affecté. C'est l'expression vraie et sincère de ma pensée. Avec la même franchise, je vous avouerai à tous deux qu'il a été un temps où je me suis rendu complice par connivence d'une trahison dont le but était de vous séparer à jamais. Car si je n'y ai point trempé moi-même, j'ai du moins laissé faire. Je m'en confesse coupable. » « Vous vous jugez trop sévèrement, » dit Édouard. « Laissons cela de côté. »« Non, cette trahison se dresse pour ma condamnation. »« Je regarde en arrière, et ce n'est pas aujourd'hui la première fois, » répondit-il. « Je ne peux pas me séparer de vous sans obtenir mon pardon plein et entier, car je n'ai plus guère de temps à passer dans la vie commune du monde, et j'ai déjà bien assez de regrets à emporter dans la solitude à laquelle désormais je me voue, sans engrossir le nombre. »« Vous n'emporterez de nous deux, » dit-elle, « que des bénédictions. » « Ne mêlez jamais le souvenir de votre Emma, qui vous doit tant d'amour et de respect, avec aucun autre sentiment que celui d'une affection et d'une reconnaissance éternelle pour le passé et les vœux les plus ardents pour votre félicité à venir. »« L'avenir, » reprit son oncle avec un sourire mélancolique, « est un mot plein de bonheur pour vous, et son image doit vous apparaître entourée d'une guirlande de joyeuses espérances. Mais pour moi, c'est autre chose. » Puisse-t-il être seulement un temps de paix, exempt de soucis et de haine. Quand vous quitterez l'Angleterre, je la quitterai comme vous. Il y a sur le continent des cloîtres, mon seul asile, maintenant que les deux grands vœux de ma vie sont satisfaits. Cela vous fait de la peine parce que vous oubliez que je deviens vieux et que me voilà bientôt au bout de ma carrière. Allons, nous en reparlerons plutôt deux fois qu'une et je vous demanderai, Emma, vos bons conseils. »
Pour les suivre, lui dit sa nièce.
Au moins les écouterai-je, répondit-il en l'embrassant, et je vous promets que je les prendrai en considération. Voyons, n'ai-je pas encore quelque chose à vous dire ? Vous êtes vu beaucoup depuis quelque temps, il vaut mieux, il est plus convenable que je laisse de côté les circonstances du passé qui avaient causé votre séparation et semé entre nous le soupçon et la défiance.
Oui, oui, cela vaut beaucoup mieux, répéta tout bas Emma.
J'avoue la part que j'y ai prise à cette époque, dit M. Herdel, tout en me le reprochant. Cela prouve qu'on ne doit jamais s'écarter, si peu que ce soit, du bon chemin, du chemin de l'honneur, sous le prétexte spécieux que la fin justifie les moyens. Quand la fin qu'on se propose est bonne, il faut l'obtenir par de bons moyens. Ceux qui font autrement sont des méchants, et il n'y a rien de mieux à faire que de les regarder comme tels et de ne point se faire leur complice.
Il détourna ses yeux de sa nièce pour les reporter sur Édouard et lui dit d'un ton plus doux « Vous avez maintenant presque autant de fortune l'un que l'autre. J'ai été pour elle un intendant fidèle. Et à ce qui lui reste des biens autrefois plus considérables de son père, je désire ajouter comme gage de mon affection une pauvre pitance qui ne vaut pas la peine d'en parler et dont je n'ai plus besoin. Je suis bien aise que vous alliez voyager à l'étranger. » Que notre maison maudite reste en ruine. Quand vous reviendrez, après quelques années prospères, vous en ferez bâtir une meilleure et, j'espère, plus fortunée. Voulez-vous faire la paix ?
Édouard prit la main que lui tendait Herdel et la serra cordialement.
Vous ne mettez ni retard ni froideur dans votre réponse, dit M. Herdel en lui rendant une poignée de main aussi chaleureuse. Et maintenant que je vous connais, je me dis, quand je vous regarde, que vous êtes bien l'homme que j'aurais voulu lui choisir pour époux. Son père était d'un caractère généreux, et vous lui auriez convenu tout à fait. Je vous la donne en son nom, et je vous bénis pour lui. Si le monde et moi nous nous séparons là-dessus, nous nous serons séparés en meilleurs termes que nous n'avons vécu ensemble depuis longtemps. » Il la mit dans les bras de son mari, et il allait quitter la chambre quand il fut arrêté dans sa marche sur le pas de la porte, par un grand bruit dans le lointain qui les fit tressaillir en silence. C'était un tumulte éclatant, mêlé d'acclamations frénétiques qui déchiraient l'air. Les clameurs approchaient de plus en plus à chaque moment, avec tant de rapidité que rien que le temps d'y prêter l'oreille, elles éclatèrent en une confusion de sons assourdissants au coin de la rue. « Il faut mettre ordre à ça, il faut apaiser ce tapage, » dit M. Herdel avec vivacité. « Nous aurions dû y penser et l'empêcher, je vais les trouver à l'instant. » Mais avant qu'il pût atteindre la porte de la rue, avant qu'Édouard eût eu seulement le temps de prendre son chapeau pour le suivre, ils furent encore arrêtés par un cri perçant qui, cette fois, partait du haut de l'escalier. En même temps, la femme du serrurier se précipita dans la chambre et, courant tout bonnement se jeter dans les bras de M. Herdel, elle s'écria « Elle sait tout, cher monsieur, elle sait tout. Nous lui en avons dit quelques mots petit à petit et maintenant elle est toute préparée. » Après cette communication, accompagnée des actions de grâce les plus ferventes pour remercier Dieu de ce nouveau bienfait, la bonne dame, fidèle à l'usage classique des matrones dans toutes les occasions d'une émotion vive, se pâma tout de suite. Ils coururent à la fenêtre, levèrent le châssis et regardèrent dans la rue encombrée par la foule. Au milieu d'une immense multitude parmi laquelle il n'y avait pas une personne qui restât un moment en repos, on voyait en plein la bonne grosse et rougeaude figure du serrurier culbutait à droite, à gauche, comme s'il luttait contre une mer agitée. Tantôt, il était emporté 20 pas en arrière, tantôt poussé en avant presque jusqu'à la porte, puis emporté par un nouveau flot, puis pressé contre le mur d'en face, puis contre les maisons attenantes à la sienne, puis soulevé jusque sur un perron où les bras d'une cinquantaine de gens le poursuivaient de leur salut, pendant que tous les autres, dans le plus grand tumulte, s'égosillaient à l'applaudir de toute leur force. Quoique véritablement il fût en danger de se voir mettre en morceaux par l'enthousiasme général, le serrurier, aussi rassuré que jamais, répondait à leurs acclamations par les siennes, jusqu'à s'en faire mal à la gorge, et dans un élan de joie et de bonne humeur, il agitait son chapeau avec tant d'ardeur que le jour avait fini par y passer entre le bord et la forme. Mais au milieu de tout cela, ballotté de main en main, avançant un pas, reculant deux, poussé, bousculé comme il était,
il n'en reparaissait que plus jovial et plus radieux après chaque assaut. La paix de son âme n'en était pas plus affectée que s'il avait volé comme une plume sur la surface de l'eau, et il n'en tenait pas moins ferme, sans le lâcher seulement une fois, un bras serré contre le sien. C'était celui d'un ami vers lequel il se tournait de temps en temps pour lui frapper sur l'épaule, ou bien pour lui glisser un mot d'encouragement solide, ou bien pour l'égayer par un sourire. Mais avant tout, son soin constant était de le défendre contre l'empressement indiscret de la foule et de lui ouvrir un passage pour le faire entrer à la clé d'or. Passif et timide, effarouché, pâle, étonné, regardant la foule comme s'il venait de ressusciter des morts et qu'il se considéra lui-même comme un revenant au milieu des vivants, Barnabé, non pas Barnabé en esprit, mais bel et bien Barnabé en chair et en os, avec un pouls naturel, des nerfs, des muscles, un cœur qui battait bien fort et des émotions violentes, se pendait au bras de son vieil ami, le robuste serrurier, se laissant conduire par lui comme un enfant. C'est ainsi qu'à la fin des fins, ils atteignirent la porte, que des mains complaisantes tenaient toutes prêtes en dedans pour les recevoir. Alors, se glissant par l'ouverture et repoussant de vive force la foule de ses pétulants admirateurs, Gabriel ferma la porte derrière lui et se trouva entre M. Herdel et Edward Chester, pendant que Barnabé ne faisait qu'un bond du haut de l'escalier et tombait à genoux au pied du lit de sa mère.
« Béni soit la fin de la plus heureuse et de la plus rude besogne que nous ayons faite de notre vie, » dit à M. Herdel, le serrurier haletant. « Les matins, avons-nous eu du mal à nous en débarrasser. En vérité, j'ai vu le moment où, avec toutes leurs belles amitiés, nous allions y rester. »
Ils avaient employé toute la journée précédente à tâcher d'arracher Barnabé à son triste destin. Trompés dans leur tentative auprès des premières autorités auxquelles ils s'étaient adressés, ils les renouvelèrent d'un autre côté. Encore repoussés par là, ils recommencèrent sur nouveaux frais au milieu de la nuit et finirent par parvenir non seulement jusqu'au juge et au jury qui l'avaient condamné, mais jusqu'à des personnages influents à la cour, jusqu'au jeune prince de Galles et jusqu'à l'antichambre du roi lui-même, ayant enfin réussi à éveiller quelque intérêt en sa faveur et à donner l'envie d'examiner son cas avec moins de passion. Ils avaient eu une entrevue avec le ministre dans son lit à 8h du matin. Le résultat d'une enquête minutieuse due à leur démarche et secondée par les attestations en faveur d'un pauvre garçon qu'ils connaissaient depuis son enfance fut qu'entre 11h et midi, le pardon absolu de Barnabé Rudge fut apprêté, signé et confié à un cavalier pour le porter en toute hâte au lieu de l'exécution. Le messager de grâce arriva sur les lieux juste au moment où on voyait déjà paraître la fatale charrette, et pendant qu'elle remportait Barnabé à la prison, M. Herdel, après s'être assuré que tout était fini, était revenu tout droit de Bloomsbury Square à la Clé d'Or, laissant à Gabriel l'agréable tâche de le ramener chez lui en triomphe.
« Je n'ai pas besoin de vous dire, » fit observer là-dessus le serrurier, après avoir donné des poignées de main à tous les hommes de la maison et serré dans ses bras toutes les femmes plus de 45 fois, « qu'excepté entre nous, en famille, ce n'est pas moi qui ai voulu en faire un triomphe. Mais nous n'avons pas été plus tôt dans la rue quand on nous a reconnus. Et alors a commencé le vacarme. Si on me donnait le choix entre les deux, » ajouta-t-il en essuyant sa figure toute cramoisie, « et après avoir éprouvé l'un et l'autre, je crois que j'aimerais encore mieux me voir enlevé de ma maison par une bande d'ennemis qu'escorté à la maison par une émeute d'amis. » Mais on voyait bien que c'était seulement de la part de Gabriel une façon de parler, et qu'au contraire, l'affaire, d'un bout à l'autre, lui causait un plaisir extrême.
Car le peuple, continuant son tapage au dehors et redoublant ses acclamations comme s'il venait de prendre des gosiers de rechange, capables de durer au moins une quinzaine, il envoya chercher Grippe au second étage. Grippe était revenu sur le dos de son maître et avait reconnu les faveurs de la multitude en tirant du sang de chaque doigt qui s'aventurait à la portée de son bec. Alors, prenant l'oiseau sur son bras, il se présenta lui-même à la fenêtre du premier et agita encore son chapeau, si bien que cette fois il ne tenait plus qu'à un fil entre les quatre doigts et le pouce. Cette démonstration ayant été accueillie par des vivates méritées, et le silence s'étant un peu rétabli, il les remercia de leur sympathie et, prenant la liberté de les informer qu'il y avait quelqu'un de malade dans la maison, il leur proposa trois hurrahs en faveur du roi Georges, trois autres en faveur de la vieille Angleterre, puis trois autres en faveur de n'importe qui pour la clôture. La foule y consentit en substituant seulement le nom de Gabriel Varden dans le hurrah de n'importe qui et en lui en donnant un de plus pour faire la bonne mesure. Puis elle se dispersa, pleine de bonne humeur. Ainsi finit la cérémonie. Toutes les félicitations échangées parmi les habitants de la Clé d'Or, quand on les eut laissés tranquilles, le débordement de joie et de bonheur qu'ils ressentaient, la difficulté où Barnabé en personne se trouvait de l'exprimer autrement qu'en allant comme un fou de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'enfin, ayant recouvré plus de calme, il vint s'étendre par terre auprès de la couche de sa mère et y tomba dans un profond sommeil, tout cela n'a pas besoin de se dire, heureusement, car ce ne serait pas facile à décrire si c'était nécessaire à notre récit. Avant de quitter cette scène charmante, nous ferons bien de jeter un coup d'œil sur un tableau plus sombre et d'un genre tout différent, qui, cette nuit-là même, avait eu un petit nombre de spectateurs. C'était dans un cimetière, à l'heure de minuit. Il n'y avait d'autres assistants qu'Edward Chester, un ministre, un fossoyeur, et les quatre porteurs d'une bière grossière. Ils se tenaient tous debout autour d'une fosse nouvellement creusée, et l'un des porteurs tenait à la main une lanterne sourde, la seule lumière qui éclaira ces lieux funèbres pour répandre sa faible lueur sur le livre d'office. Il la plaça un moment sur le cercueil avant de la descendre avec l'aide de ses compagnons. Le couvercle de la bière ne portait aucune inscription. La terre humide retomba avec un bruit solennel sur la dernière demeure de cet homme sans nom. Et le bruit du gravier laissa un triste écho, même dans l'oreille endurcie de ceux qui l'avaient porté à son dernier asile. La fosse fut remplie jusqu'au haut, puis aplanie en piétinant dessus. Et ils s'en allèrent, tous ensemble. « Vous ne l'avez jamais vu de son vivant ?» demanda le ministre à Édouard. « Pardon, souvent, mais il y a bien des années. » Et je ne me doutais pas que ce fût mon frère. Jamais depuis ? Jamais. J'ai voulu le voir hier, mais il s'y est refusé obstinément, malgré les instances répétées que j'ai fait faire auprès de lui. Et il a refusé de vous voir ? Il fallait que ce fût un cœur endurci et dénaturé. Croyez-vous ? Vous avez l'air de n'être pas de mon avis. En effet, nous entendons tous les jours le monde s'étonner de voir ce qu'il appelle des monstres d'ingratitude. Ne dirait-on pas qu'il s'attendait plutôt à voir partout des monstres d'affection, comme si c'était la chose la plus naturelle. Pendant qu'ils étaient arrivés à la porte de la grille, là, ils se souhaitèrent bonne nuit et s'en retournèrent chacun chez soi.